Je vous invite ce matin à revenir sur un passage que nous avons déjà lu ici dernièrement. C'est toujours au chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Vous voyez que j'avance très doucement. Nous sommes à la fin de ce chapitre 4. Et ce matin, nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 2 du chapitre 5. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être pas, mais il y a quelques semaines, j'avais fait une longue introduction à ce passage sur l'intelligence relationnelle que nous devons avoir, que nous devons cultiver entre nous, surtout au sein de l'Église, mais partout dans nos familles et au sein de la société. Si nous voulons avoir des relations saines, n'est-ce pas, entre nous. Et c'était juste une introduction, donc nous allons essayer d'analyser maintenant les choses que l'apôtre Paul nous dit de faire ou de ne pas faire pour avoir ce qu'on pourrait appeler aussi une bonne hygiène relationnelle partout où nous sommes. Et il s'agit donc d'un passage très terre à terre, très concret, avec beaucoup d'exhortations fortes qui peuvent peut-être choquer ceux qui ne sont pas encore chrétiens, parce qu'ils vont peut-être se dire « mais c'est trop légaliste ». Alors, nous, les chrétiens qui avons reçu la grâce de Dieu en nous, dans nos vies, nous ne trouvons pas ce passage légaliste. Ça nous fait plaisir qu'il y ait un passage très concret comme celui-ci qui nous dit « faites ceci, ne faites pas cela ». Et peut-être qu'on aimerait avoir plus de passages comme ça, mais je crois que le Seigneur nous laisse aussi réfléchir, n'est-ce pas ? Il nous donne un message et il nous laisse réfléchir à comment mener notre vie ici-bas. Avant de lire, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une boussole sur notre chemin. Merci Seigneur pour tout ce qu'elle nous dit sur toi, sur le salut, sur la vie éternelle, sur notre vie ici-bas. Et nous te prions Seigneur d'ouvrir non seulement nos oreilles mais nos cœurs afin que nous puissions écouter, entendre, recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, amen. Alors à partir du verset 25, je vais l'afficher. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. On voit tout de suite que l'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins, n'est-ce pas ? Il va droit au but, il met le doigt là où il faut, là où ça fait mal, n'est-ce pas ? Il faut savoir qu'il écrit à des chrétiens qui vivaient dans un milieu, disons le mot païen, n'est-ce pas ? Comme nous aujourd'hui, n'est-ce pas ? Avec des gens qui ne veulent pas savoir de l'évangile, qui ne veulent rien savoir de ce que la parole de Dieu dit. Et donc, il fait ça pour leur rappeler, à ces chrétiens-là, ce qui doit exister dans leur vie, dans leur comportement chrétien au sein de la société, qui doit être manifeste, qui doit être visible dans leur comportement chrétien. Et déjà, au début de ce chapitre, il exhortait les chrétiens à vivre d'une manière digne de l'appel reçu de la part du Seigneur. Vivre d'une manière digne de l'appel reçu de la part du Seigneur. Et au verset 17, il leur dit, « Voici ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne. On ne peut pas vivre comme eux. Or, pour leur parler de ces valeurs chrétiennes, qui doivent donc faire partie de notre vie chrétienne de chaque jour, l'apôtre Paul finalement fait référence à quelques obstacles qui empêchent justement d'avoir de bonnes relations, de relations saines avec les autres. Des obstacles, on pourrait dire, et c'est le contexte de cette lettre, des obstacles à l'unité de l'Église, des choses qui doivent absolument disparaître de nos vies chrétiennes. Et il encourage donc à renoncer à ces choses, à les extirper de nos vies, non seulement parce qu'elles sont, néfastes, n'est-ce pas, nuisibles aux bonnes relations, mais surtout parce qu'elles sont incompatibles avec ce que nous professons être en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, ne cesse-t-il de répéter partout dans ses lettres. Au verset 22, il nous exhorte, il utilise le mot, à nous dépouiller, à nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre et à nous revêtir de cette nouvelle nature que Dieu nous donne. Cela veut dire, cela m'a fait penser que finalement la vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ, est le résultat harmonieux de l'action de Dieu en nous, n'est-ce pas? Mais aussi de la bonne volonté que nous devons y mettre, non seulement pour connaître sa volonté, la volonté de Dieu pour nos vies de chaque jour, mais aussi pour mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Et surtout pour mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit sur l'unité chrétienne, sur le vivre ensemble, n'est-ce pas? Le vivre avec les autres. Alors, quels sont ces obstacles qui doivent disparaître de nos vies? Et quelles sont ces vertus, ces valeurs chrétiennes propres à la vie chrétienne? L'apôtre Paul cite de manière très concrète quelques-uns de ces obstacles. Il y en a d'autres, bien sûr, mais dans ce texte, nous allons voir ce qu'il dit. Des obstacles que nous trouvons partout dans la société qui nous environne, mais des obstacles que nous ne devons pas trouver dans notre vie chrétienne. Le mensonge, la colère incontrôlée, le vol, les paroles mauvaises, l'amertume, l'animosité, la clameur, la calomnie, la méchanceté. Et au verset 4 du chapitre 5, il ajoute les paroles grossières, les propos insensés ou équivoques. Voilà ce que nous devons abandonner, ces obstacles qui ne doivent pas faire partie de notre vie. Alors, en étudiant ce passage, je me suis dit, on pourrait peut-être diviser cette liste en deux catégories. Ceux liés à la langue, à la parole, n'est-ce pas, notre parole, et ceux liés à nos états d'âme, à notre caractère, à notre tempérament, mais tous deux liés à notre ancienne nature pécheresse, n'est-ce pas? Liés à notre nature pécheresse. Alors ce matin, nous allons nous cantonner à examiner ceux liés à l'usage de la parole. Donc on va avancer doucement. Ceux liés à l'usage donc de la parole. Vous savez que la Bible en parle souvent. La Bible en parle souvent car il y a là vraiment des obstacles parfois terribles à surmonter pour faire la volonté de Dieu et pour bien vivre ensemble avec les autres. Ces obstacles sont vraiment de taille, la parole de Dieu nous le dit. Alors, j'ai essayé de chercher un titre pour le message ce matin, et c'est vrai que mon imagination n'est pas énorme, donc je me suis dit, je vais mettre ce titre-là, « Dis-lui avec des fleurs, pas avec des cactus ». Voilà. « Dis-lui avec des fleurs, pas avec des cactus ». Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais vous allez comprendre pourquoi. Il faut d'abord dire que la parole, et il faut commencer par là, n'est-ce pas, est un don merveilleux que Dieu a donné à l'humanité. C'est quelque chose de formidable. Et je pense que personne ne dira le contraire, surtout pas les bavards, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est vrai même pour les plus timides. La parole est l'une des caractéristiques humaines qui reflète l'image de Dieu en nous. Notre Dieu est un Dieu qui parle et il nous a donné ce don pour que nous puissions aussi communiquer au travers de la parole. Et c'est la parole donc qui nous distingue du règne animal. Les chiens ne parlent pas, ils aboient, n'est-ce pas? Les vaches ne parlent pas, elles meuglent. Les lions rugissent, n'est-ce pas? Les oiseaux, qu'est-ce que font les oiseaux? Ils chantent, ils gazouillent, ils crissent. Voilà. Nous sommes, nous les êtres humains, nous parlons. Voilà ce qui nous distingue du règne animal. Et la parole nous permet donc de mieux communiquer avec nos semblables, n'est-ce pas? Et de tisser parfois de relations profondes avec eux. Or, le problème, c'est quoi? C'est que ce don merveilleux que Dieu nous a donné comporte aussi des risques, comporte des risques terribles. D'ailleurs, la Bible en parle souvent, car nous ne savons pas toujours utiliser ce don, nous ne savons pas toujours utiliser la parole à bon escient. Car si la parole nous donne le moyen de communiquer et de tisser donc de relations avec les uns avec les autres, elle porte aussi un double pouvoir, celui de guérir, d'édifier, de construire, ou celui de détruire, de blesser, de séparer et de diviser. Je ne vais pas citer des exemples, vous le connaissez sans doute, mais combien d'adultes sont encore blessés par des paroles qui ont été dites lorsqu'ils étaient enfants, n'est-ce pas, lorsqu'ils étaient petits, chez eux, par le père, par la mère ou par la maîtresse? Tu es complètement nul, tu ne seras bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon de ta vie, je te hais, je ne t'aime pas, etc. Des choses qui ont marqué ces enfants à jamais. Combien de foyers sont divisés à cause de tel ou tel propos qui a été proféré, peut-être sous l'effet de la colère, et qui a laissé des marques indélébiles, n'est-ce pas, pour toujours? Combien de personnes même se sont suicidées à cause de tel ou tel propos qui a été prononcé à leur égard? Combien de personnes ont aussi parfois quitté les églises à cause d'un mauvais usage de la parole, à cause de la médisance ou de la calomnie? Les proverbes ont raison de dire, je cite, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » Et c'est sans doute pour cela que la Bible nous parle énormément des dangers liés justement à la parole. Et nous exhorte donc à faire très attention à ce que nous disons et à comment nous le disons aussi. Vous connaissez ce texte de Jacques, et je pense qu'on ne peut pas faire un enseignement sur l'usage de la langue et de la parole sans lire ce texte de Jacques au chapitre 3, où Jacques décrit de façon radicale, mais je dirais remarquable aussi, n'est-ce pas, l'immense pouvoir de la parole, soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. Je vais lire. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est vrai que c'est un passage très dur à entendre, très dur à lire. Mais ces paroles, finalement, ne font que dénoncer les travers dans lesquels nous tombons souvent. Nous devons être honnêtes, n'est-ce pas? Car il y a des paroles qui produisent de la joie, qui encouragent, qui édifient, qui font du bien. Et Philippe nous rappelait l'autre jour cette parole de Mark Twain, n'est-ce pas ? Avec un bon compliment, je peux vivre 2 mois. Il y a des paroles qui sont comme des fleurs, pour garder le titre que j'ai donné tout à l'heure, n'est-ce pas ? Qui ont un parfum agréable, qui sont belles. Mais il y a aussi des paroles qui sont comme des cactus, qui piquent, qui blessent, elles nous laissent un goût amer, car elles démolissent et nuisent terriblement donc à la fraternité, à nos relations. Je pense qu'effectivement, les paroles ont ce double pouvoir, celui de guérir ou celui de blesser, voire de tuer, car elles pénètrent au plus profond de notre être. Et de là, elles se répandent soit comme une eau bienfaisante, n'est-ce pas, qui irrigue tout, soit comme un feu qui dévore tout sur son passage. L'apôtre Paul parle souvent, lui aussi, du souci que nous devons avoir vis-à-vis de nos paroles à cause de l'effet qu'elles peuvent produire chez l'autre, n'est-ce pas ? Et il en parle notamment dans le texte ce matin. Et qu'est-ce qu'il dit ? En fait, il dit ce que nous avons déjà dit. Il y a 2 types de paroles, les bonnes et les mauvaises. Et au verset 29, il dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise ou malsaine, selon cette traduction, ou selon d'autres traductions, aucune parole malhonnête, déshonnête, vilaine, blessante ou pourrie, selon Chouraki. Aucune parole pourrie. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Je pense que la traduction la plus juste est celle finalement de Chouraki. Aucune parole pourrie ne doit sortir de votre bouche. D'après John Stott, le mot grec employé pour malsain est un mot qui convenait aux arbres pourris et aux fruits gâtés. Et c'est pour ça que Chouraki traduit ce mot par pourri. Il s'agit donc de ne pas utiliser des paroles pourries, il faut le dire, n'est-ce pas ? Des paroles pourries, des paroles auxquelles l'apôtre Paul fait souvent référence, et surtout dans ce passage, des paroles malhonnêtes, des paroles mauvaises, malsaines, injurieuses, des paroles qui blessent, la calomnie, le mensonge, les propos vulgaires, obscènes, insensés, équivoques, les gros mots, toutes ces paroles pourries qui ne servent qu'à jeter à la poubelle. Ces paroles-là ne servent pas à l'édification mutuelle. Ces paroles-là ne communiquent pas une grâce à ceux qui l'entendent. Autrement dit, il faut avoir dans notre bouche des paroles mûres. Des paroles pour faire le bien autour de nous, des paroles pour fortifier les autres, pour édifier, pour encourager, pour féliciter, bref, pour communiquer une grâce de la part du Seigneur, des paroles pour bénir les autres, des paroles au service du bien et non pas au service du mal. Dites-lui avec des fleurs, pas avec des cactus. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul commence cette liste par faire référence à l'un de ces cactus qui nuit terriblement aux relations, non seulement au sein de l'Église, mais partout, n'est-ce pas, dans les foyers et en société. Le mensonge. Il nous exhorte donc à renoncer à ce cactus qu'est le mensonge et à le remplacer par une fleur, la vérité. La vérité. L'apôtre Paul cite ici le passage de Zacharie, chapitre 8, qui dit « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain, et que nul dans son cœur ne pense mal contre son prochain. » Et dans ce passage, verset suivant, Dieu dit « Haïr le mensonge et le faux serment. » Alors je pense qu'à propos de cette dernière phrase « Que nul dans son cœur ne pense mal contre son prochain », quand je l'ai lu, je me suis dit, combien de fois nous prêtons de mauvaises intentions aux autres, n'est-ce pas ? Combien de fois nous avons entendu telle ou telle parole dite par quelqu'un à telle occasion, peut-être avec une très bonne intention, sa motivation était bonne, son seul objectif était peut-être d'encourager, de remercier, de louer, de faire plaisir à d'autres. Et nous soupçonnons une mauvaise intention. N'est-ce pas le diable qui sème ça dans notre cœur? C'est le diable qui sème ça dans notre cœur. Et qu'est-ce que nous faisons? Soit nous boudons, soit nous allons chercher tous les arguments possibles, imaginaires, pour aller combattre ce que l'autre a dit, alors que derrière, il n'y avait qu'une bonne intention. Que nul dans son cœur ne pense mal contre son prochain. Dites la vérité chacun à son prochain. Au verset 24, l'apôtre Paul dit que la vie nouvelle du chrétien porte le sceau de la justice, de la sainteté et de la vérité. Cela veut dire que nos paroles doivent porter le sceau de la justice, de la sainteté et de la vérité. La vérité fait partie donc du fruit de l'évangile dans nos vies, car le fruit de la lumière, dit-il au chapitre 5, verset 9, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le chrétien ne peut pas vivre dans le mensonge. Le chrétien ne peut pas dire des faussetés, blesser les autres par ses paroles, avoir dans sa bouche des paroles pourries. Impossible, c'est incompatible avec la vie chrétienne. Ceux qui se disent être à l'école du Christ, ceux qui se disent être disciples du Seigneur Jésus, ils doivent être reconnus dans leur milieu comme des gens honnêtes en toutes choses, et même au niveau de leurs paroles, n'est-ce pas, des gens véridiques, des hommes et des femmes dont la parole est fiable, agréable, digne de confiance. Jésus disait que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. On comprend bien pourquoi le mensonge doit être éliminé, n'est-ce pas, de nos vies chrétiennes. Le mensonge crée un manque de confiance et mine les relations entre les gens, n'est-ce pas? Là où il y a le mensonge, il y a un manque de confiance. Et quand il y a un manque de confiance, il y a de la méfiance, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose qui est cassé, qui se casse, n'est-ce pas? Et il y a toutes sortes de mensonges. Il y a des petits mensonges, des grands mensonges, mais ils ont tous leurs conséquences. Il y a les demi-vérités, qui ne sont que des mensonges, n'est-ce pas? Et il y a les exagérations, les mauvaises excuses pour sauver sa face, ou parce que j'ai honte de dire telle ou telle chose, et je préfère dire le contraire. En tant que chrétien, l'apôtre Paul nous dit que nous avons dépouillé le mensonge. Celui-ci ne doit trouver aucune place dans notre vie. Mais l'apôtre Paul évoque une autre raison pour arrêter de mentir. Non seulement parce que nous appartenons à Jésus-Christ, qui est la vérité, avec un grand V, n'est-ce pas, je suis le chemin, la vérité, a-t-il dit. Non seulement parce que nous avons reçu la parole de la vérité, l'évangile de Jésus-Christ, mais parce que nous sommes, dit l'apôtre Paul, membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres, nous formons un corps, le corps de Christ ici sur la terre. Et le mensonge entre membres d'un même corps compromet l'unité du corps tout entier. Imaginez que vous êtes vous êtes en train de manger, vous avez votre fourchette pleine de nourriture et votre cerveau ne vous indique pas le bon endroit où mettre votre fourchette. Vous allez le mettre dans les narines ou dans l'œil ou je ne sais pas où. Vous allez vous blesser, vous faire mal, vous salir. On pourrait continuer avec d'autres exemples. Vous êtes en train de traverser la route et le cerveau ne tient pas compte de la circulation et vous dit de traverser. Vous connaissez les conséquences, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous mentir les uns aux autres parce que nous faisons partie les uns des autres, nous dit l'apôtre Paul. Si je vous fais mal, je me fais mal. Si vous me faites mal, vous vous faites mal. Nous sommes membres les uns des autres. Vous êtes membres de moi. Et moi, de vous. Voilà ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Cela est aussi vrai par rapport aux vérités de l'Évangile. J'ai l'impression que la tendance aujourd'hui dans nos églises, même dans nos églises évangéliques qui disent être attachées à la parole de Dieu, c'est d'accepter tout ou n'importe quoi. Peut-être j'exagère un petit peu. Mais lorsqu'on a des doctrines fondamentales de l'Évangile, on les connaît. On sait qu'il y a eu des gens qui ont donné leur vie pour défendre ces doctrines qui sont bibliques, pour que les chrétiens reviennent à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on est en train de revenir un petit peu en arrière en disant « Oui, mais ce n'est pas grave, hein. Il a fait autrement, mais bon, ça va, ça va. » La parole de Dieu nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Si l'Église ne défend pas la vérité de la parole de Dieu telle qu'elle est là, qui va la défendre? L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et même à ce niveau-là, il faut que la vérité soit présente dans l'Église. L'apôtre Paul, dans ce chapitre, parle de la vérité dans l'amour, n'est-ce pas? Oui, dans l'amour, mais la vérité quand même. La vérité, donc, fait partie de notre vie chrétienne, de la vie de l'Église, mais l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous dit qu'elle fait partie de notre armure spirituelle contre le diable. Il dit ceci, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » La vérité doit être bien présente dans notre vie pour faire face à notre ennemi qui est le diable. Alors, les autres cactus à arracher de nos vies sont donc la médisance, la calomnie, les propos douteux. On sait bien qu'il s'agit de cactus très, très puissants, n'est-ce pas, pour détruire des personnes, pour détruire des relations et même des églises. Il y a des églises qui se sont divisées à cause de ces choses-là, n'est-ce pas? Vous savez qu'il est pratiquement possible de faire taire une calomnie qui a été propagée, n'est-ce pas? C'est presque impossible. Et c'est probablement, en tout cas, c'est très difficile, n'est-ce pas, de guérir d'une calomnie, d'une blessure qui est le fruit d'une calomnie. C'est toujours quelque chose qui marque les personnes. Alors, dire du mal de quelqu'un ou d'une église, peut-être même avec les meilleures intentions du monde, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, n'est-ce pas? Il faut plutôt s'attacher à ce qui est bon, même si parfois il y a des choses qui ne vont pas, il faut plutôt s'attacher à ce qui va au sein de l'Église. Les chrétiens authentiques ne sont pas des jeteurs de pierres. Ne sont pas des jeteurs de pierres. Ils sont là pour bénir, pour édifier, pour construire. Le dernier cactus, je vois que l'heure avance, mais permettez-moi encore de faire référence à ça, le dernier cactus arraché dans le domaine de la parole, c'est les propos vulgaires, les gros mots, comme on dit. Or, aujourd'hui, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas, dans la société, bon, c'est devenu habituel que les gens utilisent des gros mots, et même parfois au sein de nos églises, nous entendons des gens utiliser des mots qui choquent, n'est-ce pas, des gros mots. L'apôtre Paul nous dit que ces gros mots conduisent à l'impudeur. Il les cite au chapitre 5, après avoir parlé un peu de la débauche sexuelle, n'est-ce pas? Ces gros mots conduisent à nous amener à vers des péchés d'ordre sexuel, hein, pour dire les choses un peu plus clairement. La parole de Dieu nous dit de nous abstenir de ces choses-là et de remplacer ces mots, ces propos vulgaires par des actions de grâce, avoir dans notre bouche plutôt des actions de grâce, des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans la lettre aux Hébreux, nous sommes exhortés à offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Le fruit de nos lèvres qui confessent le nom du Seigneur ne peut pas être un fruit pourri, ne peut pas être un fruit pourri, bien au contraire. Alors la question finalement qu'on doit se poser, quel type de paroles avons-nous sur nos lèvres? Des paroles qui guérissent, des paroles qui blessent ou des paroles qui construisent, qui édifient, des paroles qui mettent les gens sur les bons rails, n'est-ce pas, pour aller de l'avant, pour qu'ils continuent à servir le Seigneur. Jésus lui aussi a fortement insisté sur l'importance de nos paroles. Il a dit qu'elles sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Si nous voulons savoir où puiser ces bonnes paroles d'action de grâce que nous devons avoir sur nos lèvres, ces paroles édifiantes, Il nous suffit de lire Colossiens chapitre 3, verset 16, qui dit « Que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Je crois que cette exhortation de l'apôtre Paul est très importante, parce qu'elle nous encourage à remplir notre cœur de bonnes choses, les choses de la parole de Dieu. Et si nous remplissons notre cœur des choses qui viennent de la parole de Dieu, nous aurons toujours de bonnes paroles à dire, à donner aux autres. Si la parole de Christ habite en moi, avec toute sa richesse, mon propos ne sera jamais un fruit pourri, ne sera jamais un cactus. Si la parole de Christ habite richement dans mon cœur, j'ai des trésors de bons fruits à donner à mes frères et sœurs. J'ai des fleurs parfumées à offrir aux autres et je ne leur offrirai pas des cactus. L'apôtre Paul nous avertit de ne pas attrister le Saint-Esprit par nos paroles pourries. Il s'attriste lorsque nous utilisons ces paroles qui sont condamnées dans ce texte parce qu'elles sont une offense à la sainteté du Saint-Esprit qui est Dieu. Quand nous offensons un frère, nous offensons le Saint-Esprit, nous dit-il ici. C'est très grave, parce que c'est par lui que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, nous dit l'apôtre Paul. Son œuvre est de travailler en nous. Son œuvre, c'est de nous transformer jusqu'au jour de la rédemption, le jour du Seigneur. Il est temps d'enlever toute parole pourrie de notre vie, toute communication mauvaise de nos vies. Enlevons tout ça. Le fait d'être devenu de nouvelles créatures en Christ implique nécessairement, n'est-ce pas, de nouvelles manières, une nouvelle manière de parler. La vie en Jésus-Christ nous fait passer d'une communication blessante à une communication bénissante, édifiante, constructive. Je terminerai en rappelant juste ceci. La parole de Dieu nous rappelle qu'une bonne parole est une parole honnête, réfléchie, prononcée avec calme, dite au moment opportun pour bénir, pour aider, pour encourager, pour réjouir, pour réconforter, stimuler, exhorter. Puissions-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, à chaque instant nous rappeler de cela. Dites-lui avec des fleurs, pas avec des cactus. Que Dieu bénisse sa parole.